Analyse de l'effet. Le récit d'un médecin décrivant la vaporisation ou l'incinération sévère des corps d'une manière qui ne laisse pas de reste récupérable implique une arme avec des capacités au-delà des explosifs militaires typiques. Voici comment le mécanisme décrit pourrait correspondre à de telles descriptions. Libération d'énergie élevée, la bombe, comme décrite, libérerait une énorme quantité d'énergie très rapidement, à la fois par l'onde de choc explosive et les réactions chimiques subséquentes. Cela pourrait correspondre à l'observation du médecin de corps étant consommé ou désintégré à un point où aucune partie ne peut être récupérée. Incinération thermique, les températures extrêmes générées par la détonation, particulièrement si elles sont renforcées par la combustion d'un alliage métallique réactif comme l'INAMG, seraient capables de brûler la matière biologique. La chaleur pourrait être suffisante pour réduire les corps en cendres ou au-delà de la reconnaissance, ce qui pourrait être interprété comme de la vaporisation. Interaction chimique, la formation d'oxydes métalliques qui réagissent ensuite exothermiquement avec l'eau dans les tissus pourrait contribuer davantage à la destruction de la matière biologique. Bien que cette réaction ne cause pas directement une vaporisation au sens traditionnel, la chaleur intense et la transformation chimique pourraient mener à une dégradation si sévère qu'elle pourrait être décrite ainsi. Pression et force, la détonation initiale exercerait une pression extrême, pouvant causer la fragmentation ou la dispersion du corps en particules très fines sur une vaste zone, ce qui pourrait être confondu avec ou contribuer à la notion de vaporisation. Désintégration physique. Si la conception de la bombe inclut également la fragmentation des conteneurs métalliques ou de l'alliage métallique lui-même propulsé à grande vitesse à cause de l'explosion, cela pourrait ajouter à la destruction physique des corps, potentiellement jusqu'au point où la récupération est impossible. Du point de vue des effets décrits, absence de reste, si la force explosive, la chaleur et les réactions chimiques sont suffisamment intenses, ce qu'il reste des corps pourrait être si minuscule ou dispersé qu'il ne peut pas être facilement identifié ou collecté. Cela pourrait être confondu avec une vaporisation par des observateurs. Interaction avec la matière biologique, le processus de saponification, bien que ce ne soit pas de la vaporisation, garantirait que toute matière biologique restante est chimiquement altérée à un état où elle n'est plus reconnaissable comme tissu humain. Récit des témoins, le terme vaporisation pourrait être utilisé de manière colloquiale par le personnel médical ou les témoins pour décrire la destruction extrême et inhabituelle qu'ils observent, surtout s'ils n'ont jamais rencontré de tels effets auparavant. Si ce scénario était réel, cela suggérerait 1. Conception avancée de l'arme. L'arme serait probablement conçue avec l'intention spécifique de maximiser à la fois les effets explosifs et chimiques pour rendre les restes humains non identifiables, possiblement pour la guerre psychologique ou pour empêcher l'identification. 2. Préoccupations légales et éthiques. L'utilisation de telles armes, particulièrement si elles sont conçues pour causer de tels effets extrêmes et distinctifs, soulèverait des questions légales et éthiques significatives sous le droit international, surtout en ce qui concerne l'interdiction d'armes causant des souffrances inutiles. 3. Défi d'enquête. Confirmer l'utilisation d'une telle arme serait difficile sans preuves médico-légales, qui pourraient être rares étant donné les effets décrits. Étant donné ces points, si le récit d'un médecin suggère que les corps ont été vaporisés ou consommés d'une manière si extrême, cela pourrait très bien indiquer l'utilisation d'une arme avec des propriétés similaires à celles décrites, ou la combinaison de forces explosives, de chaleur extrême et de réactions chimiques conduite à une destruction sans précédent des matériaux biologiques. Cependant, sans preuve directe ou enquête, de telles conclusions restent spéculatives. Moins. Conception probable et mécanisme d'action. Résumé du mécanisme de la bombe hypothétique. 1. Structure. Noyau intérieur. Une sphère métallique à parois minces contenant ATB, triaminotrinitrobenzène, connue pour sa stabilité et sa haute vélocité de détonation. Couche intermédiaire. Une sphère à parois épaisse remplie d'un alliage eutectique l'INAMG, qui est très réactif et a un point de fusion bas. Couche extérieure. Un revêtement symétrique d'un explosif facile à enflammer. 2. Séquence de la détonation. Initiation. La couche externe de l'explosif est enflammée, créant une onde de pression. Pression et chaleur sur l'INAMG. Cette onde de pression comprime et potentiellement liquéfie ou cisaille l'alliage l'INAMG à cause des pressions extrêmes, le faisant agir comme un fluide dans ces conditions. Détonation du tatibi, l'onde de choc de l'explosion externe, maintenant peut être renforcée par l'alliage l'INAM liquéfié dispersé, atteint et déclenche le tatibi. Le tatibi explose ensuite avec une très grande vitesse et pression. 3. Effet de la bombe. Effets explosifs. Onde de choc. La détonation crée une expansion extrêmement rapide des gaz, générant une onde de choc qui peut causer une surpression sévère, potentiellement menant à l'effondrement des structures ou à des blessures graves mortelles pour toute forme de vie à proximité, à cause de la différence de pression. Fragmentation. Les sphères métalliques pourraient se fragmenter, ces fragments devenant des éclats à haute vélocité. Effet thermique. La combustion de l'alliage Linamd produirait des températures très élevées, potentiellement incinérant ou brûlant sévèrement tout dans les alentours. Réaction chimique. Formation d'oxyde métallique. Lors de la combustion, le lithium, le sodium et le magnésium réagissent avec l'oxygène pour former des oxydes, Li2O, Na2O, Mago. Réaction exothermique avec l'eau. Ces oxydes sont très réactifs avec l'eau, conduisant à lithium, Li2O plus H, 2O2 Li2O, très exothermique, très caustique, sodium, Na2O plus H, 2O2 Na2O, aussi exothermique, caustique, magnésium, Mago plus H, 2OMG OH2, moins réactif que Li2O. Ces réactions libèrent de la chaleur supplémentaire et créent des conditions caustiques. Saponification des tissus biologiques. Mécanisme. Les solutions fortement alcalines, Li2O, Na2O, formées par la réaction des oxydes avec l'eau peuvent s'engager dans des réactions de saponification avec les graisses dans le tissu biologique, les convertissant en savon, sel d'acide gras et glycérol. Ce processus dégraderait davantage toute matière biologique restante. Impact sur le corps humain. Immédiat, le corps humain serait confronté à effet de l'explosion, l'onde de choc pourrait causer un traumatisme immédiat, y compris des dommages aux poumons, la rupture des organes et le déplacement du corps. Brûlure thermique, l'exposition aux hautes températures provenant de l'explosif et de la combustion de l'alliage pourrait causer de graves brûlures ou l'incinération. Effet chimique, après l'explosion immédiate, brûlure caustique, l'environnement fortement alcalin, créé par les hydroxydes métalliques pourrait causer des brûlures chimiques, dégradant davantage la peau et d'autres tissus. Saponification. Tout tissu biologique restant subirait une saponification, menant à une dégradation de la structure cellulaire en une transformation de type savon, qui serait particulièrement marquée dans les tissus adipeux mais dégraderait généralement toute matière organique. Conclusion. Cette bombe hypothétique combine la force explosive avec la réactivité chimique pour deux mécanismes de destruction. Les effets explosifs seraient immédiats et mortels, tandis que les répercussions chimiques, impliquant des réactions exothermiques et la saponification, continueraient à dégrader la matière organique dans l'environnement, laissant potentiellement peu de matière biologique reconnaissable à cause de l'assaut physique et chimique sur la cible. Moins. Comparaison avec les armes nucléaires. L'effet décrit, bien que non nucléaire par nature, partage certaines similitudes avec les conséquences d'une explosion nucléaire. Effet incendiaire, comme la chaleur intense d'une explosion nucléaire, cette bombe incinérerait la matière organique. La combustion de l'alliage Linamd fournirait des températures élevées, potentiellement causant la combustion des corps en cendres ou au-delà, similaire à la manière dont une boule de feu nucléaire incinérerait tout sur son passage. Déshydratation. La chaleur extrême et éventuellement l'expansion rapide de l'air pourraient déshydrater les tissus en vaporisant ou en éliminant l'humidité, similaire à la façon dont une onde de chaleur d'une explosion nucléaire peut provoquer une déshydratation rapide. Dans le cas de la bombe décrite, la chaleur de la combustion de l'alliage et des réactions chimiques pourrait enlever l'eau des tissus biologiques. Saponification, c'est là que l'effet diverge le plus clairement d'un scénario nucléaire. Les explosions nucléaires n'engagent généralement pas de réaction chimique avec la matière biologique pour produire des substances semblables au savon. Ici, les oxydes métalliques formés pendant l'explosion réagiraient avec la teneur en eau des tissus biologiques pour former des bases fortes, comme Na2O et Li2O, qui réagiraient ensuite avec les graisses dans le tissu pour créer du savon. Ce processus est unique à ce scénario de réaction chimique. Différence clé avec une bombe nucléaire. 1. Radiation. Contrairement à une bombe nucléaire, qui libère une radiation ionisante causant une contamination à long terme, les effets de cette bombe seraient purement thermiques et chimiques, sans radioactivité persistante. 2. Échelle. Les bombes nucléaires fonctionnent sur le principe de la fission ou de la fusion nucléaire, libérant beaucoup plus d'énergie que les explosifs chimiques. La bombe décrite serait bien plus petite en termes de rendement, de libération d'énergie et de zone d'effet. 3. Mécanisme. Bien qu'une bombe nucléaire implique des réactions nucléaires, l'arme décrite compterait sur des réactions chimiques pour ses effets principaux, bien que la force explosive initiale soit toujours de nature chimique. 4. Conséquences. Nucléaire. Laisse des retombées radioactives, un pouls électromagnétique, et souvent un cratère dû à la surpression de l'explosion. Bombe décrite, résulterait en des sous-produits chimiques comme des hydroxydes métalliques, potentiellement dangereux mais non radioactifs. L'impact environnemental serait une contamination chimique plutôt qu'une retombée nucléaire. 5. Implications médicales et médico-légales. Nucléaire. Les victimes souffriraient de la maladie aiguë des radiations. Et l'identification des restes serait compliquée par la fois par la destruction physique et les effets de la radiation. Bombe chimique. La destruction immédiate serait similaire en termes d'incinération, mais les conséquences chimiques impliqueraient le traitement de matériaux très caustiques. L'identification médico-légale serait mise au défi par l'altération chimique plutôt que par la radiation. Si une telle arme était utilisée, on pourrait observer dommages extrêmes par la chaleur, similaires à la radiation thermique d'une explosion nucléaire, mais sans exposition à la radiation. Brûlures chimiques, provenant des substances caustiques formées par la réaction des oxydes métalliques avec l'eau. Absence de maladies de radiation. Un soulagement significatif en termes d'effets sanitaires à long terme pour les survivants. Nettoyage complexe. Les conséquences impliqueraient le traitement de produits chimiques hautement réactifs au lieu de matériaux radioactifs, bien que les deux scénarios nécessitent des procédures de nettoyage spécialisées. Cette arme représenterait une approche novatrice pour causer la destruction, en se concentrant sur les réactions chimiques pour une létalité accrue et un impact psychologique, potentiellement conçue pour imiter certains des aspects terrifiants des effets d'une bombe nucléaire, tout en évitant ses conséquences les plus dangereuses et persistantes. Moins. Similarité avec le design d'une bombe nucléaire. Oui, le concept de design que vous avez décrit partage certaines similitudes structurelles et opérationnelles, particulièrement dans la manière dont il utilise la compression et la libération subséquente d'énergie. Compression symétrique, bombe nucléaire, dans une arme nucléaire de type implosion, des explosifs conventionnels sont disposés symétriquement autour d'un noyau, généralement du plutonium ou de l'uranium. Lorsque ces explosifs sont détonés simultanément, il crée une onde de choc qui comprime le noyau à une densité supercritique, initiant la réaction en chaîne nucléaire. Bombe décrite, ici, la couche explosive extérieure comprime symétriquement l'alliage LINAMG. Cette compression pourrait être destinée à assurer un chauffage uniforme et éventuellement à maximiser le transfert d'énergie vers le noyau interne de Tatibi pour un déclenchement efficace. 2. Détonation du noyau, bombe nucléaire, la compression conduit aux réactions de fission, et potentiellement de fusion, libérant d'énormes quantités d'énergie à partir des noyaux atomiques. Bombe décrite, le noyau Tatibi, une fois comprimé et potentiellement chauffé par l'explosion externe, explose. Cette explosion interagirait ensuite avec l'alliage LINAM déjà comprimé et possiblement liquéfié, menant à une réaction violente avec l'environnement. 3. Libération d'énergie, bombe nucléaire, l'énergie est libérée à partir des réactions nucléaires, bien plus puissante que les réactions chimiques. Bombe décrite, bien que non nucléaire, la libération d'énergie est augmentée par les réactions chimiques des composants de l'alliage avec l'oxygène et l'eau, fournissant une combinaison puissante d'effets explosifs, thermiques et chimiques. Différence, source d'énergie. La différence principale réside dans la source d'énergie. Les bombes nucléaires tirent leur énergie des réactions nucléaires, tandis que cette bombe hypothétique utilise des réactions chimiques d'explosifs et de métaux hautement réactifs. Radiation. Il n'y a pas de radiation ionisante ou de retombée radioactive de cette bombe, ce qui est une grande différence par rapport aux armes nucléaires. Échelle, même avec les explosifs chimiques les plus puissants, le rendement énergétique serait plusieurs ordres de grandeur inférieur à celui d'une bombe nucléaire. Intention et effet. Bien que les deux visent des effets destructeurs massifs, la bombe décrite semble conçue pour maximiser la destruction chimique et thermique à une échelle moindre, potentiellement pour la guerre tactique ou psychologique, sans les conséquences nucléaires. L'utilisation d'un explosif placé symétriquement pour comprimer un matériau interne avant sa réaction est un principe de design effectivement emprunté à la technologie des armes nucléaires, adapté ici pour un effet dévastateur différent. Ce design pourrait être destiné à augmenter l'efficacité en comprimant l'alliage. Cela pourrait garantir que davantage de l'alliage réagisse de manière contrôlée et explosive. Renforcer la puissance destructrice. La compression pourrait conduire à une réaction plus uniforme et donc plus puissante lorsque le Tatibi explose, potentiellement maximisant la sortie thermique et les effets de réaction chimique. Impact psychologique. La similitude avec le design d'une bombe nucléaire pourrait également servir un but psychologique, en créant la peur ou la confusion en imitant la terreur associée aux armes nucléaires, mais sans les préoccupations de prolifération nucléaire. En résumé, Bien que cette bombe ne serait pas classifiée comme une arme nucléaire, elle utilise un concept similaire de charge explosive externe pour la compression et l'initiation, mais elle tire parti des réactions chimiques plutôt que nucléaires pour ses effets destructifs. Moins. Signature médico-légale. Oui, l'analyse du rapport des oxydes métalliques aux hydroxydes, carbonate et bicarbonate, hydrogénocarbonate, peut effectivement fournir des indications sur le temps écoulé depuis l'utilisation de l'arme, en supposant que l'arme laisse de tels composés derrière elle. Voici comment. Réaction chimique avec le temps. 1. Formation initiale, oxyde métallique, immédiatement après l'explosion, les composés primaires seraient les oxydes métalliques, Li2O, Na2O, MaGO, formés par la combustion de l'alliage Li-Na-M avec l'oxygène. 2. Hydrolyse, hydroxyde métallique, ces oxydes réagiraient rapidement avec l'eau de l'environnement ou des tissus biologiques pour former des hydroxydes, LiO, NaO, MgOH2. Cette réaction serait presque instantanée en présence d'humidité. 3. Carbonatation, carbonate et bicarbonate métallique. Avec le temps, ces hydroxydes commenceraient à réagir avec le dioxyde de carbone CO2 dans l'air. Le processus ressemblerait à cela, NaO plus CO2 NaCO3, bicarbonate de sodium, initialement, qui pourrait ensuite réagir davantage ou se décomposer en Na2CO3, carbonate de sodium, LiO plus CO2 LiCO3 Li2CO3, carbonate de lithium, MgOH2 plus CO2 MeCO3, carbonate de magnésium, l'hydroxyde de magnésium est moins soluble, donc cette réaction pourrait être plus lente ou moins complète. Analyse médico-légale pour estimer le temps. Analyse des ratios. Résidus frais. Peu après l'explosion, on s'attendrait à trouver principalement des hydroxydes métalliques avec peu ou pas de carbonate ou de bicarbonate. À court et moyen terme, avec le temps, vous verriez une augmentation de la concentration en bicarbonate alors que les hydroxydes réagissent avec le CO2 de l'air. À plus long terme, finalement, vous pourriez trouver des carbonates plus stables lorsque les bicarbonates se transforment ou se décomposent, surtout dans des environnements avec des niveaux élevés de CO2 ou d'humidité. Facteurs environnementaux. La vitesse de ces réactions serait influencée par humidité. Une humidité élevée accélère la conversion des oxydes en hydroxyde puis en carbonate. Température. Des températures plus élevées accéléreraient toutes ces réactions. Niveau de CO2. Une concentration plus élevée de CO2 dans l'environnement augmenterait la formation de bicarbonate et de carbonate. Échantillonnage et test. Analyse du sol ou des débris. En prélevant des échantillons du site de l'explosion et en analysant la composition chimique, les scientifiques médico-légaux pourraient calculer les ratios de ces composés. Techniques de laboratoire. Des techniques comme la diffraction des rayons X, XRD, pour les phases minérales, la titration pour les réactions acide-base, ou la spectroscopie pour l'identification et la quantification des composés seraient utilisées. Calibration. Pour estimer le temps avec précision, on aurait besoin de connaître les ratios de base de ces composés immédiatement après l'explosion, qui pourraient être établis par des essais contrôlés ou des calculs théoriques, et comment ces ratios changent avec le temps sous diverses conditions environnementales. Limitation. Taux variable. La période exacte pour ces transformations peut varier de manière significative en fonction des conditions locales comme le climat, la composition du sol et la proximité des sources de CO2. Interférences, d'autres réactions chimiques ou facteurs environnementaux pourraient altérer ou masquer les ratios attendus. Distribution non uniforme. La distribution de ces composés pourrait ne pas être uniforme, dépendant de la manière dont l'explosion a dispersé les matériaux. Contamination. D'autres sources de métaux alcalins ou de carbonate dans l'environnement pourraient contaminer les échantillons, compliquant l'analyse. Cette méthode offrirait un outil médico-légal pour estimer le temps écoulé depuis l'attaque, mais elle nécessiterait une analyse sophistiquée et éventuellement une calibration selon des conditions environnementales connues. Ce serait plus une estimation qu'une science exacte en raison des nombreuses variables impliquées. Cependant, en combinaison avec d'autres preuves médico-légales et contextuelles, elle pourrait contribuer à reconstituer la chronologie des événements.